Voilà, nous allons nous confier encore et encore à la Vierge Marie en ce premier samedi du mois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, le sujet très précis de cette première intervention, c'est effectivement Jean-Paul II et le Sacré-Cœur, mais très ciblé sur le rapport, sur le lien avec Paris le Monial et avec Marguerite Marie. Ce que nous pouvons dire, donc, surtout à travers des documents, il y aura pas mal de citations, ce que nous pouvons dire de l'approche de Jean-Paul II par rapport à Paris le Monial, par rapport au message laissé par Marguerite Marie et la ferveur qu'il y met lui-même. Donc ce ne sera pas tellement le sujet global de la miséricorde, mais vraiment Jean-Paul II, finalement, on pourrait dire Jean-Paul II et Paris le Monial et Marguerite Marie. C'est ça le contenu un petit peu. Alors tout d'abord, pour aller dans l'ordre chronologique, déjà avant qu'il soit pape, le futur pape Jean-Paul II, donc le cardinal archevêque de Cracovie, en fait, en 1965, il est archevêque de Cracovie, pas encore cardinal. Il sera créé cardinal seulement en 1967. En 65, il vient en tant qu'archevêque de Cracovie à Paris le Monial pour présider les fêtes de Sainte Marguerite Marie en octobre. À quelle occasion ? C'était le bicentenaire de la consécration de la Pologne, de son pays, au Sacré-Cœur. Le premier pays dans toute l'histoire à se consacrer en tant que nation au Sacré-Cœur en 1765. Une consécration qui a été pleinement encouragée et approuvée par le Saint-Siège et qui équivaut en soi déjà à une pleine reconnaissance donc de la dévotion du Sacré-Cœur pour l'Église universelle, même s'il faudra attendre 1856 pour l'institution officielle de la fête du Sacré-Cœur pour l'Église universelle. Déjà, cette consécration en 1765 avait rencontré un très très large écho favorable. Alors, le futur pape est venu ici, il a tenu à venir ici pour présider les fêtes de Marguerite Marie, pour rendre grâce au cœur de Jésus de la consécration de sa nation 200 ans auparavant. Donc, 1965, le cardinal Wojtyła à Paris le Monial. Plusieurs années plus tard, alors, en 1976, il prêche la retraite de Carême au Vatican pour la Curie, en présence de Paul VI. Ces prédications vont être rassemblées en un livre qui s'appelle « Le signe de contradiction ». Et là, en particulier, il insiste pas mal sur la pratique de l'heure sainte, qui est en fait une recommandation qui s'origine réellement dans le message de Paris le Monial. Lorsque Jésus a demandé, au cours des grandes apparitions, à Marguerite Marie, en guise de réparation aussi pour tant d'ingratitude, d'oubli, etc., eh bien de veiller tous les jeudis entre 11h du soir et minuit dans sa cellule, en se prosternant, et de veiller et de méditer sur l'agonie de Jésus. Ça, c'est la demande de Jésus à Marguerite Marie. Et alors, le cardinal, l'archevêque de Cracovie, était très sensible à cet aspect de l'heure sainte. Et dans une des phrases qui est demeurée assez célèbre, il dit, dans sa prédication de Carême, à un moment donné, en parlant de l'heure sainte, en justifiant même ce qu'est l'heure sainte profondément, il dit « Les apôtres Pierre, Jacques et Jean n'ont pas été capables de veiller une heure avec Jésus lors de son agonie. Depuis, l'Église est toujours à la recherche de cette heure perdue. » L'Église est toujours à la recherche de cette heure perdue. Comme s'il voulait dire, l'Église a raté vraiment une occasion unique de consoler ou de soutenir quelque peu le Seigneur à un moment où il avait vraiment besoin de nous. C'est le seul moment dans tous les évangiles où Jésus mendie notre assistance, notre présence et notre prière. Eh bien, on n'a pas été capable de le faire. Alors l'Église célèbre leur sainte comme pour toujours rattraper d'une certaine façon cette heure perdue. Toujours dans l'ordre chronologique, alors ça vaut la peine de se rappeler qu'en 1978, bien Jean-Paul II a été élu un 16 octobre, le jour où on fait mémoire de Sainte Marguerite Marie. Même si la vérité nous oblige à dire que ce n'est que quelques années plus tard qu'il en a été conscient de cette coïncidence, de cette rencontre de date. Pour lui, et c'est tout à fait normal, ce qui était premier et qu'il n'a pas manqué de souligner dès le lendemain de son élection, c'est que le 16 octobre, en Pologne, c'est la fête de Sainte Edwige, reine de Pologne. Et alors pour lui, ça a été énorme qu'il soit donc justement élu le jour de la fête nationale, donc locale, de Sainte Edwige, reine de Pologne. Mais plus tard, bien sûr, il a été très sensible au fait aussi que Marguerite Marie soit fêtée le 16 octobre. Alors donc, il est devenu pape. Et maintenant, si nous parcourons un petit peu dans l'ordre chronologique, certaines de ses interventions. Premier voyage en France, 1980, à Paris, puis aussi à Lisieux. Alors, à Paris, le 1er juin, il vit une journée extrêmement intense, avec un planning vertigineux, mais surtout avec des rencontres extrêmement signifiantes. Il y a le matin la messe au Bourget, qui réunit donc une très grande foule, une messe qui dure longtemps, son homélie mémorable, où il dit justement « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» Puis, il y a la rencontre avec les évêques de France au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Et puis, dans la soirée, la rencontre historique avec les jeunes au Parc des Princes. Tout cela 1er juin 1980. C'est d'ailleurs, selon les confidences même de Jean-Paul II, c'est cette rencontre au Parc des Princes, la ferveur qu'elle a suscitée, c'est là qu'a commencé à germer en lui l'idée des JMJ, des Journées Mondiales de la Jeunesse, et qui en sont entrées donc effectivement en œuvre, qui ont été mises en œuvre en 1985 à Rome, première Journée Mondiale de la Jeunesse. Et tout de suite après le Parc des Princes, qui s'est terminé tard, alors il a tenu lui-même à aller à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et donc il y avait une foule, alors la basilique est évidemment archi-pleine, il y avait une grande foule qui recouvrait la butte, Montmartre, et il est arrivé là, donc la nuit étant déjà largement tombée, pour un temps d'adoration et pour un temps de prière, d'exhortation, dont je vous lis ici maintenant un extrait. Donc Jean-Paul II à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, 1er juin 1980. Nous venons ici à la rencontre du cœur transpercé pour nous, d'où jaillissent l'eau et le sang. C'est l'amour rédempteur qui est à l'origine du salut, de notre salut, qui est à l'origine de l'Église. Nous venons ici contempler l'amour du Seigneur Jésus, sa bonté compatissante pour tous durant sa vie terrestre, son amour de prédilection pour les petits, les malades, les affligés. Contemplons son cœur brûlant d'amour pour son Père dans la plénitude du Saint-Esprit. Contemplons son amour infini, celui du Fils éternel qui nous conduit jusqu'au mystère même de Dieu. Et alors il ajoute, « Chers frères et sœurs, ma joie est grande de pouvoir finir cette journée dans ce haut lieu de la prière eucharistique au milieu de vous, réunis par l'amour envers le divin cœur. » Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'effectivement la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, c'est le lieu d'une adoration perpétuelle depuis plus d'un siècle. Donc il se réjouit d'être au milieu de tous ses adorateurs. « Priez-le, priez le divin cœur, dit-il. » Vivez ce message qui, de l'évangile de Saint Jean à Paris le Monial, nous appelle à entrer dans son mystère. Donc première mention, connue en tout cas, de Paris le Monial dans la bouche du pape, en tant que pape. Donc, l'évangile de Saint Jean, depuis l'évangile de Saint Jean jusqu'à Paray le Monial, ce message nous appelle à entrer dans le mystère de Dieu. Puissions-nous tous puiser avec joie aux sources du salut, celles qui découlent de l'amour du Seigneur mort et ressuscité pour nous. Donc voilà pour ce discours à Montmartre, à peu près au début, à peine, même pas 2 ans après l'élection donc, de Jean-Paul II. Alors il est venu à Paray le Monial, le 5 octobre 1986. Date peut-être providentielle pour nous, mais non calculée, puisque le 5 octobre c'était un dimanche, c'était vraiment le jour qu'il fallait choisir pour permettre une grande messe de l'autre côté de la rivière, au parc du Moulin-Liron, et qui puisse réunir le maximum de personnes. Donc c'était le dimanche, mais quelques années plus tard, donc, on a appris que c'est le jour de la célébration de Sainte Faustine. Le 5 octobre, on fait mémoire de Sainte Faustine. Déjà dès sa béatification, en 1993, et alors sa canonisation, je le rappelle, en l'an 2000. Donc une providentielle rencontre ici de date. Cependant, il n'a fait aucune allusion au mystère de la miséricorde, enfin pas explicitement, ni à Sainte Faustine, ici à Paray le Monial. Il s'est centré sur Marguerite Marie. Alors, l'essentiel de son message, c'est dans sa longue homélie qu'il est absolument impossible de citer in extenso. J'ai dû choisir des extraits. L'homélie qu'il a donc tenue pendant la grande messe célébrée sur le Moulin-Liron. Il commence par commenter la citation de Ézéchiel, chapitre 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Alors voilà les paroles de Jean-Paul II. « Nous nous trouvons en un lieu où ces paroles du prophète Ézéchiel retentissent avec force. Elles ont été confirmées ici par une servante pauvre et cachée du cœur divin de notre Seigneur, Sainte Marguerite Marie. Bien des fois, au cours de l'histoire, la vérité de cette promesse a été confirmée par la révélation dans l'Église, à travers l'expérience des saints, des mystiques, des âmes consacrées à Dieu. Toute l'histoire de la spiritualité chrétienne en témoigne. La vie de l'homme croyant en Dieu, tendu vers l'avenir par l'espérance, appelé à la communion de l'amour, cette vie est celle de l'homme intérieur. Elle est illuminée par la vérité admirable du cœur de Jésus qui s'offre lui-même pour le monde. Donc le pape insiste beaucoup sur la dimension d'intériorité qui est le fruit justement de la contemplation du cœur de Jésus, qui en se révélant, en étant transpercé, en laissant jaillir le sang et l'eau, donc nous livre en fait le plus intime de son identité unique. Pourquoi la vérité sur le cœur de Jésus nous a-t-elle été confirmée singulièrement ici, au XVIIe siècle, comme au seuil des temps modernes? Je vous donnerai un cœur pur, Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur, pardon. Dieu nous le dit par le prophète. Et le sens s'éclaire par le contexte. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Cette eau, donc, que la tradition reconnaît dans l'eau qui jaillit du côté du Christ, qui symbolise à la fois l'eau du baptême, mais aussi l'eau de l'Esprit Saint, l'Esprit purificateur, l'Esprit qui donne vie. Donc oui, poursuit le pape, Dieu purifie le cœur humain. Le cœur créé pour être le foyer de l'amour est devenu aussi le foyer central du refus de Dieu, du péché de l'homme qui se détourne de Dieu pour s'attacher à toutes sortes d'idoles. C'est alors que le cœur est impur. Mais quand le même lieu intérieur de l'homme s'ouvre à Dieu, il retrouve la pureté de l'image, et de la ressemblance imprimée en lui par le Créateur depuis le commencement. Alors le pape insiste beaucoup sur cette purification du cœur dans la contemplation, selon aussi le message de Parlemonial. Le cœur, c'est le foyer central de la conversion que Dieu désire de la part de l'homme et pour l'homme, pour entrer dans son intimité, dans son amour. Le cœur est le foyer central de la conversion que Dieu désire de la part de l'homme et pour l'homme, pour entrer dans son intimité, dans son amour. Dieu a créé l'homme pour qu'il ne soit ni indifférent ni froid, mais ouvert à Dieu. Alors là, ce n'est pas du tout explicite, mais nous, on peut peut-être y voir une allusion très très lointaine à justement à ce que se fait la dureté du cœur dans le message même que Marguerite Marie nous donne. L'ingratitude, l'indifférence, la froideur, la négligence, l'oubli, etc. Comme elles sont belles les paroles du prophète, « J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Le cœur de chair est un cœur qui a une sensibilité humaine et un cœur capable de se laisser saisir par le souffle de l'Esprit-Saint. C'est là ce que dit Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, mon esprit. » Donc voilà cette insistance sur la conversion, la purification du cœur que Jean-Paul II a voulu ici proclamer en ce lieu de Parlemonial. Alors à un moment donné, mais ça ce sont des passages que je ne vais pas citer, mais il y a une grande partie de l'homélie qui est consacrée aux familles, à qui Jean-Paul II veut annoncer la bonne nouvelle du don admirable, c'est-à-dire que Dieu, pour les familles là et pour les couples en particulier, Dieu donne la pureté du cœur, Dieu permet de vivre un amour vrai. Mais nous n'allons pas insister sur le message ici aux familles, nous en restons plus au message sur le cœur et sur Marguerite Marie. Comment l'Esprit viendra-t-il dans le cœur des hommes? Quelle sera la transformation tant désirée par le Dieu d'Israël? Ce sera l'œuvre étonnante de Jésus. Pour qu'elle soit révélée, il faudra attendre jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort sur la croix. Et lorsque le Christ a remis son Esprit entre les mains du Père, alors se produit cet événement. Des soldats vinrent. Ils vinrent à Jésus et voyant qu'il était déjà mort, un des soldats avec sa lance lui perça le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. L'événement paraît ordinaire. Sur le Golgotha, c'est le dernier geste dans une exécution romaine, la constatation de la mort du condamné. Oui, il est mort, il est réellement mort. Et dans sa mort, il s'est révélé lui-même jusqu'au bout. Le cœur transpercé est son ultime témoignage. Jean, le disciple qui se tenait au pied de la croix, l'a compris. Au cours des siècles, les disciples du Christ et les maîtres de la foi l'ont compris aussi. Au XVIIe siècle, une religieuse de la Visitation a reçu de nouveau ce témoignage à Parlemonial. Marguerite Marie le transmet à toute l'Église au seuil des temps modernes. Sainte Marguerite Marie a connu ce mystère admirable, le mystère bouleversant de l'amour divin. Elle a connu toute la profondeur des paroles d'Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur ». Tout au long de sa vie cachée dans le Christ, elle fut marquée par le don de ce cœur qui s'offre sans limite à tous les cœurs humains. Elle était saisie tout entière par ce mystère divin. Je vous rappelle qu'il y avait une grande ferveur sur le moulin Liron. Et naturellement, les sœurs de la Visitation ont reçu la permission de quitter la clôture. Elles étaient toutes rassemblées aussi, tout à fait proches du podium, de la célébration. Et donc, ces paroles allaient droit à leur cœur. C'est une véritable célébration de leur sainte, de leur, L-E-U-R, sainte. Voilà. Donc, elle était saisie tout entière par ce mystère divin. Et toute sa vie, Sainte Marguerite Marie brûlait de la flamme vive de cet amour que le Christ est venu allumer dans l'histoire de l'homme. Allusion à ce passage bien connu de L'évangile de Luc, chapitre 12, verset 49, où Jésus dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme déjà je voudrais qu'il soit allumé ». Cette sorte de sainte impatience qui d'ailleurs se traduit avec d'autres mots lors de la première grande apparition, donc le 27 décembre 1673, nous venons de fêter il y a quelques semaines les 350 ans, Jésus qui dit « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour toi en particulier et pour tous les hommes qu'il ne peut plus contenir en lui-même les feux de son ardente charité. Il faut qu'il les répande par ton moyen. » Cette même impatience et la même dynamique que Luc chapitre 12. Ici, en ce lieu de Parelmonial, dit Jean-Paul II, comme jadis l'apôtre Paul, l'humble servante de Dieu semblait crier au monde entier « Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ?» Paul, lui, s'adressait à la première génération des chrétiens. Il savait ce que sont la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim et même la nudité. Il savait ce que c'était. Sous les dents des bêtes, dans les arènes, dans les naufrages, dans toutes sortes de choses, il savait ce que sont le péril et le glaive. D'expérience, Paul le savait. Au XVIIe siècle, la même question retentit, posée par Marguerite Marie aux chrétiens d'alors, à Parelmonial. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? Et alors, en notre temps, la même question retentit, adressée à chacun de nous, à chacun en particulier. Alors, de nouveau, des exhortations familiales, je ne cite que cette phrase-là, parce qu'elle reste d'une brûlante actualité, avec toutes les lois sociétales, etc., toutes ces atteintes contre la famille, contre la vie, etc. Nous le savons, les familles de ce temps connaissent trop souvent l'épreuve, et en particulier aussi la rupture. Et aussi, surtout, dit-il, c'est pour ça que je le cite, parce qu'on est en plein dans l'actualité, et aussi, quelle contradiction à la vérité humaine de l'amour lorsque l'on refuse de donner la vie de manière responsable et lorsque l'on en vient à faire mourir l'enfant déjà conçu. Alors nous pouvons prier, effectivement, comme nous le faisons d'ailleurs tous les premiers vendredis du mois, pour la France, avec des paroles d'ailleurs de Jean-Paul II. Ces paroles-là qu'il a prononcées à Reims, donc lorsqu'il est revenu là, pour l'anniversaire du baptême de Clovis. Ce sont là les signes, dit-il, d'une véritable maladie, toutes ces lois, toutes ces choses qui commencent à devenir coutumes, ce sont là les signes d'une véritable maladie qui atteint les personnes, les couples, les enfants et la société elle-même. Dernier extrait de cette longue homélie. Avec Paul de Tarse, avec Marguerite Marie, nous proclamons la même certitude. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. J'en ai la certitude, dit Jean-Paul II, rien ne pourra jamais. Aujourd'hui, nous nous trouvons en ce lieu de Parelmonial pour renouveler en nous-mêmes cette certitude. Je vous donnerai un cœur. Devant le cœur ouvert du Christ, nous cherchons à puiser en lui l'amour vrai dont nos familles ont besoin. La cellule familiale est fondamentale pour édifier la civilisation de l'amour. Partout dans la société, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos usines et nos bureaux, dans nos rencontres entre peuples et races, le cœur de pierre, le cœur desséché doit se changer en cœur de chair. Ouvert aux frères, ouvert à Dieu. Et déjà en 86, Jean-Paul II disait « Il y va de la paix, il y va de la survie de l'humanité. Cela dépasse nos forces. C'est un don de Dieu, un don de son amour. Nous avons la certitude de son amour. » C'est ainsi que se terminait cette homélie du 5 octobre 1986. Alors nous passons plusieurs années. Peut-être, on a peut-être un petit peu besoin de se détendre dans une petite anecdote qui date de 1984. Plusieurs futurs prêtres de la communauté, encore séminaristes à l'époque, et dont certains ont bien connu, il était chaplain dans les premiers temps en 87, Gabriel Priou. Alors, ils ont servi la messe du pape à Rome, à la basilique Saint-Pierre. C'était la rencontre des prêtres du renouveau charismatique, rencontre internationale. Et puis là donc, il y a plusieurs qui ont servi la messe, dont Gabriel Priou, faisant déjà pleinement partie de la communauté de l'Emmanuel, déjà étudiant, séminariste. Et puis ils ont rencontré le pape ensuite à la sacristie, au moment de déposer les ornements, etc. Et donc chacun a pu dire un petit mot au pape. Et Gabriel Priou a dit « Saint-Père, nous vous attendons à Paris le Monial ». Et Jean-Paul II a dit « Oui, oui, mais pas ce soir ». Voilà. C'est bon, très bien. Alors donc, maintenant nous passons plusieurs années, nous arrivons en 1999. Alors là, un événement surtout à Paris le Monial, mais pour l'Église universelle aussi. L'année du Père, juste avant l'entrée du grand jubilé de l'an 2000. Et là, mémoire du centenaire de la consécration du genre humain au Sacré-Cœur, geste posé par Léon XIII en 1899, au seuil du XXe siècle. Et le pape a voulu s'en souvenir, centenaire de la consécration du genre humain au Sacré-Cœur. Alors, dans l'éditorial de la revue spéciale de Paris le Monial, qui avait été publiée à cette occasion-là, on donne d'abord ce résumé, on va ensuite un petit peu explorer. Jean-Paul II envoya aux milliers de pèlerins venus pour ses fêtes à Paris le Monial, c'est les fêtes du Sacré-Cœur donc, juin 1999, donc, il envoya aux pèlerins venus pour ses fêtes à Paris le Monial un message personnel, signé de Rome, la veille de son départ pour la Pologne, le 4 juin, premier vendredi du mois. En effet, il devait ensuite partir en Pologne, et c'est en Pologne qu'il a célébré la solennité du Sacré-Cœur. Mais il a tenu d'abord à saluer, encore à partir de Rome, les pèlerins de Paris le Monial. En adressant ce message par l'intermédiaire de l'archevêque de Lyon, à l'époque c'était Mgr Billet, et qui était en même temps président de la Conférence des évêques de France, le pape voulait ainsi donner une audience nationale à ce texte qui fut communiqué à tous les évêques de France le 11 juin, jour du 100e anniversaire de l'acte solennel de Léon XIII. Je ne suis pas sûr que ce soit très sûr. Il y a deux choses. Il y a le message spécifiquement pour les pèlerins de Paris le Monial, et puis il y a un message pour l'Église universelle. Celui-là est daté du 11 juin, jour du 100e anniversaire de l'acte solennel de Léon XIII. Donc il y a deux choses distinctes, mais qui se complètent. Spécifiquement pour Paris le Monial, un message, et ensuite, quelques jours plus tard, la célébration au niveau universel du centenaire de cet acte de consécration posé par Léon XIII. Ce même jour, donc, 11 juin 1999, le Saint-Père rendait public à Varsovie donc, ce message de portée universelle soulignant l'actualité de l'acte de consécration de son prédécesseur et encourageant le culte du cœur de Jésus dans la perspective du jubilé de l'an 2000. Alors nous allons un petit peu explorer cela parce que c'était un événement effectivement qui peut-être est un peu sorti maintenant de la mémoire, mais qui avait un écho extrêmement large en 1999. Ces deux textes majeurs, donc, message à Paris le Monial et message à l'Église universelle. Je reste encore un petit peu dans la narration. Dès le vendredi, solennité du Sacré-Cœur, une surprise de taille nous fut réservée. Mgr Segui, qui était alors l'évêque d'Autun, entouré de plus de 60 prêtres, présidait l'Eucharistie. Il eut la joie de nous lire le message que le pape Jean-Paul II adressait à tous les pèlerins réunis à Paris le Monial. Nous citerons tout à l'heure un petit peu ce message. Voilà, on y vient. Voilà ce message, des extraits, parce que c'est un message très fourni en même temps. Au moment, c'est Jean-Paul II qui écrit là, au moment où de nombreux pèlerins s'apprêtent à célébrer solennellement à Paris le Monial la fête du Sacré-Cœur et de faire mémoire de la consécration du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus faite par le pape Léon XIII il y a 100 ans, je suis heureux à travers vous de leur adresser, alors là il s'adresse à Mgr Billet et à Mgr Segui aussi, à travers vous de leur adresser mes cordiales salutations et de m'unir par la prière à leur démarche spirituelle ainsi qu'à celle de toutes les personnes qui font en ce jour un acte d'offrande au Sacré-Cœur. À la suite de Saint Jean Eudes, donc je rappelle, le grand saint de Normandie, contemporain de Marguerite Marie, à la suite de Saint Jean Eudes qui nous a appris à contempler Jésus lui-même, le cœur des cœurs dans le cœur de Marie, et de les faire aimer tous les deux, le culte rendu au Sacré-Cœur s'est répandu à la suite de Saint Jean Eudes, notamment grâce à Sainte Marguerite Marie, religieuse de la Visitation à Paris le Monial. Le 11 juin 1899, invitant tous les évêques à s'associer à sa démarche, Léon XIII demandait au Seigneur d'être le roi de tous les fidèles, ainsi que des hommes qui l'ont abandonné ou de ceux qui ne le connaissent pas, le suppliant de les amener à la vérité et de les conduire vers celui qui est la vie. Un autre extrait de ce même message adressé aux pèlerins de Paris. J'encourage donc vivement les fidèles à adorer le Christ présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, l'invitation à l'adoration. Le laissant guérir nos consciences, nous purifier, nous illuminer et nous unifier. Dans la rencontre avec lui, les chrétiens puiseront la force pour leur vie spirituelle et pour leur mission dans le monde. En effet, dans le cœur à cœur avec le divin Maître, découvrant l'amour infini du Père, les fidèles seront de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Alors il terminait ce message, daté, je le rappelle, du 4 juin, celui-ci, 1999, la veille de son départ pour la Pologne, invoquant l'intercession de la Vierge Marie, Mère du Christ et de l'Église, à laquelle j'ai consacré les hommes et les nations le 13 mai 1982, à Fatima, donc, je vous accorde bien volontiers la bénédiction apostolique, ainsi qu'à tous les fidèles qui, à l'occasion de la fête du Sacré-Cœur, se rendront en pèlerinage à Paris le Monial ou qui participeront avec dévotion à une célébration liturgique ou à un autre moment de prière au Sacré-Cœur. Donc voilà pour le message adressé aux parodiens. Quelques mots sur le message adressé cette fois-ci à l'Église universel. Donc voilà l'introduction explicative dans la revue. À Varsovie, donc là nous sommes le 11 juin, le jour même de la fête du Sacré-Cœur, le Saint-Père signait ce message sur le sens toujours actuel de la consécration du genre humain au cœur de Jésus et l'adressait à l'Église universelle. Voilà. Alors pour les extraits, c'est un message aussi très très conséquent, avec une théologie du cœur de Jésus très très fouillée. Et là, dans le cadre de cet enseignement, limité dans le temps, il nous est impossible d'entrer dans l'exploration. Je lis simplement ceci. La consécration du genre humain faite en 1899 est une étape d'un relief extraordinaire dans le cheminement de l'Église. Et il est toujours valable de la renouveler chaque année en la fête du Sacré-Cœur. Cela peut être dit aussi de l'acte de réparation qu'on a l'habitude de réciter pour la fête du Christ-Roi. La fête du Christ-Roi est originée aussi à Paris le Monial. En 1925, Marthe de Noya, habitante de Paris le Monial, qui a écrit au pape Pie XI et qui a demandé au pape Pie XI d'instituer cette fête du Christ-Roi. Donc, acte de réparation qu'on a l'habitude de réciter pour la fête du Christ roi. Les paroles de Léon XIII résonnent toujours, toujours actuelles. Il faut donc recourir, dit Léon XIII, à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. L'homme a erré, il doit revenir au chemin. Les esprits se sont obscurcis, que cette obscurité soit dissipée par la lumière de la vérité. La mort a pris le dessus, il faut faire triompher la vie. Tout cela fait partie de l'encyclique qu'avait écrite Léon XIII à l'occasion de cette consécration. Le titre latin de cette encyclique, Annum Sacrum, l'année sacrée. Et Jean-Paul II ajoute, n'est-ce pas là le programme du Concile Vatican II et de mon pontificat ? On peut dire d'une certaine façon vraiment que Jean-Paul II s'est révélé un petit peu comme le pape du Sacré-Cœur. Il n'a jamais écrit d'encyclique, mais selon des statistiques qu'on m'avait soumis à l'époque, c'est le pape qui a le plus écrit sur le Sacré-Cœur. Il y a aussi la somme des Angélus qu'il a fait pendant des semaines et des semaines consécutives. À chaque Angélus, une méditation sur chacune des invocations des litanies du Sacré-Cœur. Voilà donc pour ce grand événement du centenaire de la consécration par Léon XIII. Voilà, vous tenez le choc encore ? Alors maintenant, je ne peux faire que lire l'intégrale d'un document que je vais de temps en temps émailler peut-être de tout petits commentaires. Je n'ai pas pu faire des extraits là-dedans, tellement c'est concentré, dense. Il s'agit de la lettre que Jean-Paul II avait écrite à Monseigneur Segui, évêque d'Autun, pour le tricentenaire de la mort de Sainte Marguerite Marie. Ça s'est passé en 1990, donc on revient un petit peu en arrière dans le temps. 1990, ici à Paray-le-Monial, on a solennellement célébré le tricentenaire du retour à Dieu de Marguerite Marie. Et alors, l'évêque d'Autun avait demandé au pape d'écrire une lettre à cette occasion, ce qu'il a fait bien volontiers. Et si je le cite intégralement, c'est parce que cette lettre semble être écrite pour nous, pour la célébration du jubilé des 350 ans. Il n'y a pas un mot, sauf évidemment les dates, qui ne peuvent pas être appliqués comme des sortes de poteaux indicateurs pour vivre cette période jubilaire. Et là, il y a un condensé du message de Paray-le-Monial, de la théologie du Sacré-Cœur et de l'universalité aussi, de la théologie qui dépasse la simple dévotion, évidemment. Et ça, c'est, d'ailleurs, je le signale aussi, c'est grâce à Pie XII, à son magistral encyclique Orietis Aquas in Gaudio, écrite en 1956, qui reste encore le document incontournable, le plus complet, dans tous les points de vue sur le Sacré-Cœur, sur le culte rendu au Sacré-Cœur, sur le plan théologique, sur le plan de la tradition patristique, sur le plan scripturaire, avec de nombreux écrits de l'Ancien Testament, et puis aussi sur le plan mystique, toute la tradition mystique, etc., dont évidemment Marguerite Marie, et sur le plan pastoral. Donc ça reste toujours l'encyclique écrite en 1956, d'ailleurs pour célébrer le centenaire de l'institution de la fête du Sacré-Cœur dans l'Église universelle, qui, elle, a eu lieu en 1856 par le bienheureux pape Pie IX. Donc voilà maintenant la lettre de Jean-Paul II pour le tricentenaire de la mort de Marguerite Marie. À Monseigneur Segui, évêque d'Autun, Chalon et Mâcon. Le tricentenaire de la mort de Sainte Marguerite Marie, canonisé par mon prédécesseur Benoît XV en 1920, ravive le souvenir de celle qui, de 1673 à 1675, eut la faveur d'apparition du Seigneur Jésus et se vit confier un message dont le rayonnement fut immense dans l'Église. C'est en l'octave de la fête Dieu de 1675, en ce grand siècle, où tant d'auteurs et d'artistes avaient pénétré les richesses de l'âme humaine, que la jeune visitandine de Paray le Monial entend cette parole bouleversante. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. Lors de mon pèlerinage de 1986, auprès du tombeau de Marguerite Marie, j'ai demandé que, dans l'esprit de ce qu'elle avait transmis à l'Église, on rendît fidèlement un culte au Sacré-Cœur. Et maintenant, écoutez bien ces paroles qui sont décisives, très condensées. « Car c'est auprès du cœur du Christ que le cœur de l'homme apprend à connaître le sens véritable et unique de sa vie et de son destin. C'est auprès du cœur du Christ que le cœur de l'homme reçoit la capacité d'aimer. » Sainte Marguerite Marie connut la grâce d'aimer à travers la croix. En cela, elle nous livre un message toujours actuel. Il faut, dit-elle, nous rendre des copies vivantes de notre époux crucifié, en l'exprimant en nous par toutes sortes de, par toutes nos actions. Je redis la citation. Il faut nous rendre des copies vivantes de notre époux crucifié, en l'exprimant en nous par toutes nos actions. Elle nous invite à contempler le cœur du Christ, c'est-à-dire à reconnaître dans l'humanité du Verbe incarné les richesses infinies de son amour pour le Père et pour les hommes. Or, c'est l'amour du Christ qui rend l'homme digne d'être aimé. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme a reçu un cœur avide d'amour et capable d'aimer. L'amour du Rédempteur qui le guérit de la blessure du péché l'élève à la condition de fils. Avec Sainte Marguerite Marie, unie au Sauveur jusque dans la souffrance offerte par amour, nous demanderons la grâce de reconnaître la valeur infinie de tout homme. Pour donner au culte du Sacré-Cœur la place qui lui revient dans l'Église, il nous faut reprendre l'exhortation de saint Paul. Ayez en vous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Philippiens chapitre 2. C'est ce verset qui précède les versets alors bien connus, le Christ Jésus ayant la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang l'égalité à Dieu, etc. Il s'est anéanti. C'est le verset juste avant. Tous les récits évangéliques sont à relire, alors ça c'est très important pour nous aussi, même pour notre prière personnelle, pour notre lecture de la parole de Dieu, tous les récits évangéliques sont à relire dans cette perspective d'avoir en nous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus, dans son cœur. Tous les récits évangéliques sont à relire dans cette perspective. Chaque verset, médité avec amour, révélera un aspect du mystère caché depuis les siècles et désormais manifesté à nos yeux. Le Fils unique de Dieu, en s'incarnant, prend un cœur humain. Au long des années qu'il passe au milieu des hommes, doux et humble de cœur, il dévoile les richesses de sa vie intérieure par chacun de ses gestes, de ses regards, de ses paroles, de ses silences. Donc tout s'origine dans le cœur du Christ, et c'est pour ça que la source même d'une lecture féconde de l'Évangile s'origine aussi dans le cœur du Christ. Donc je quitte pour l'instant les citations de Jean-Paul II. Le grand théologien bénédictin Don Colombin Marmion, d'ailleurs baptisé par Jean-Paul II en l'an 2000, pour lui, bien sûr, le sommet de l'année liturgique, du point de vue de la célébration, ça reste bien sûr la vigile pascale, le triduum, etc. Mais il dit que le centre et le sommet, d'une certaine façon, parce que c'est la source permanente, c'est la solennité du cœur de Jésus. Tout est à découvrir et à explorer à travers de ce cœur, formé sous le cœur virginal de la très sainte Vierge Marie. Toutes les paroles, toutes ses actions, tous ses miracles, sa passion évidemment, et tout le reste, tout ce qui concerne Jésus, tout ce qui concerne même ses déplacements, tout son apostolat, Il dit tout cela sont autant, c'est Don Marmion qui dit, sont autant d'expressions de l'amour infini et ardent de son cœur. Et d'ailleurs, lors de la première grande apparition, à l'occasion de la première grande apparition, en 1673, Marguerite Marie a vu cette vision du cœur de Jésus entouré d'une couronne d'épines avec la croix plantée dans le cœur. Et là, elle a demandé l'explication à Jésus, qu'elle a ensuite livrée au père croisé, jésuite. Jésus lui a fait comprendre que dès le tout premier instant de son incarnation, de son existence comme homme, la croix était déjà plantée dans son cœur. La passion commence dès ce moment-là. En d'autres termes, c'est dès ce premier moment que Jésus, que le cœur de Jésus est déjà le cœur du grand prêtre dont nous parle l'Épître aux Hébreux, qui vient au devant de toutes nos détresses dans sa grande compassion sacerdotale. Donc voilà, et Jean-Paul II ne fait que confirmer cela. Tous les évangiles sont à lire et tout ce que nous pouvons vivre sont à lire à la lumière de cette source permanente qu'est le cœur ouvert de Jésus. Dans le Christ, Jésus s'accomplit en plénitude le commandement de l'Ancien Testament, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. » Deutéronome chapitre 6. « Seul, en effet, le cœur du Christ a aimé le Père d'un amour sans partage. » Permettez-moi du coup encore de faire une parenthèse et de citer un ancien chapelain, pas très difficile à connaître, qui est devenu évêque depuis. Ah non, il y en a deux déjà. Donc voilà, ça, c'est le père Yves Le Sault, qui alors qu'il était chapelain ici, a fait une très très belle méditation au cours d'une session liturgique en commentant ce passage du Deutéronome. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. » Ces paroles que je te donne aujourd'hui, tu les mettras sur ton front, sur ton poignet, sur les linteaux, sur tes portes, etc. Et alors il a dit, en fait, il n'y a que le Christ qui a pu vivre vraiment ce commandement totalement dans son absolu accomplissement. Beaucoup de justes, et dans l'Ancien Testament, et dans le judaïsme moderne aussi, parce qu'il y a des saints dans le judaïsme aussi, essayent de vivre ce commandement. Mais seul le Christ l'a vraiment pu vivre en l'accomplissant. Alors le père Le Sault disait donc, « Lui seul a été capable d'aimer Dieu, son Père, de tout son cœur, jusqu'au transpercement du cœur. Lui seul a été capable de le graver sur son front par la couronne d'épines. » Lui seul a été capable de les mettre sur ses poignets par les clous qui l'ont fixé sur la croix. Lui seul a pu d'une certaine façon l'imprimer sur les portes, sur les linteaux, qui symbolisent ici la croix, le bois de la croix, horizontal et vertical, baigné par son sang. Alors vous voyez, c'est un très très beau, belle méditation du Deutéronome, de ce fameux Shema Israël, écoute Israël. Donc Jean-Paul II nous résume ceci en disant « Seul, en effet, le cœur du Christ a aimé le Père d'un amour sans partage. » Et voici que nous sommes appelés à avoir part à cet amour et à recevoir par l'Esprit-Saint cette extraordinaire capacité d'aimer. Après la rencontre du ressuscité sur le chemin d'Emmaüs, les disciples s'émerveillent. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ? Oui, le cœur de l'homme devient brûlant au contact du cœur du Christ, car il découvre avec quel amour du Père le Seigneur ressuscité a accompli ce qu'ont annoncé les prophètes, le cœur brûlant. Je rappelle simplement, mais c'est ce que tout le monde sait, que lors de la deuxième grande apparition, Marguerite Marie a vu la blessure du cœur comme une fournaise ardente d'amour. Ainsi, dit Jean-Paul II, l'humanité du Seigneur Jésus mort et ressuscité se révèle à nous par la contemplation de son cœur. Nourrie par la méditation de la parole de Dieu, la prière d'adoration nous met dans un rapport plus étroit, plus intime avec ce cœur qui a tant aimé les hommes. Le pape insiste beaucoup, il est très sensible à cette dimension d'adoration par rapport au cœur. Je voudrais quand même rappeler ce que dit Pie XII dans son encyclique Orietis Aquas, de façon très concrète, c'est substantiel. Il dit, au moment de la mort, le cœur de Jésus cessa de battre. Jusqu'au moment où il se remit à battre, au moment de la résurrection. Et désormais, dit Pie XII, il ne cessera plus de battre d'un mouvement serein et imperturbable. Et cela pour l'éternité. Les battements du cœur de Jésus, pour l'éternité. Est-ce à cela que Jean-Paul II pensait lorsque dans sa lettre apostolique en vue de l'année de l'Eucharistie, je ne parle pas de l'encyclique, il y a une encyclique, mais il y a aussi la lettre apostolique « Reste avec nous Seigneur » où il nous invite à passer de longs moments en conversation avec Jésus présent dans le Saint-Sacrement et à prier devant le Saint-Sacrement, dit-il, jusqu'à presque entendre les battements de son cœur. Vous voyez, ça c'est la spiritualité mystique de Jean-Paul II sur le cœur de Jésus, jusqu'à presque entendre les battements de son cœur. Alors donc là, il dit, voilà, c'est au contact du cœur du Christ que l'homme découvre avec quel amour du Père le Seigneur ressuscité a accompli ce qu'ont annoncé les prophètes. Ainsi, l'humanité du Seigneur Jésus, mort et ressuscité, se révèle à nous par la contemplation de son cœur. Nourrie par la méditation de la parole de Dieu, la prière d'adoration nous met dans un rapport plus étroit, plus intime avec ce cœur qui a tant aimé les hommes. Ainsi comprise, la dévotion au Sacré-Cœur favorise la participation active des fidèles au temps de grâce de l'Eucharistie et du sacrement de pénitence. Les fidèles puisent aussi dans le lien étroit avec l'humanité du Christ, donné pour le salut du monde, le désir d'être solidaire avec tous ceux qui souffrent et le courage d'être témoin de la bonne nouvelle. Ne vous inquiétez pas, nous approchons de la fin là. J'encourage les pasteurs, les communautés religieuses et tous les animateurs des pèlerinages à Paray-le-Monial à contribuer au rayonnement du message reçu par Sainte Marguerite Marie. À vous-même, le pasteur de l'église d'Autun, donc à l'époque Mgr Séguy, et à tous ceux qui se laisseront saisir par cet enseignement, je souhaite de découvrir dans le cœur du Christ la force de l'amour, les sources de la grâce, la présence réelle du Seigneur à son Église par le don quotidiennement renouvelé de son corps et de son sang. À chacun d'entre vous, j'accorde volontiers ma bénédiction apostolique, donc du Vatican, 22 juin 1990, en la fête du Sacré-Cœur, Jean-Paul II. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça, cette lettre, c'est comme si elle était écrite pour nous, pour ce jubilé aussi ? C'est vraiment, il y a tout, tout est là-dedans, tout est actualisable, si je puis dire. Voilà, nous terminons ici. Peut-être nous pouvons prendre juste simplement comme refrain « Cœur de Jésus brûlant d'amour » et puis nous nous préparons ensuite pour aller à la messe.